Bienvenue sur la chaîne AAU. Ambiance, architecture, urbanité. Suite à leur intervention, Claire Petit-Mangin et Marcus Weisen nous entraînent dans un exercice d'écoute qui vise à découvrir la méthode de l'entretien d'explicitation.
Claire, Marcus, je ne sais pas si... vous allez nous proposer un exercice ou une expérience, c'est ça? Donc l'idée c'est de prendre un petit temps pour prendre connaissance de cette expérience-là, puis de la mener après en petit groupe, hein. Donc là, vous avez la parole. Oui, on vous écoute.
Ok. Maintenant, ce qu'on voudrait vous proposer avec Marcus, en fait, c'est un petit atelier qui va consister à faire des petits entretiens en sous-groupe de 3 personnes. Des entretiens portant sur une expérience que je vais vous proposer. Et juste, je voudrais vous expliquer un petit peu le cadre donc, de cette recherche. Donc, il y a quelques années, avec un petit groupe de microphénoménologues, on s'est intéressé à l'expérience auditive. Bon, qui vous est familière, je pense. Donc, nous avons passé beaucoup de temps à écouter des sons. Par exemple, le son produit par un verre en cristal, des sons produits par des instruments de musique, des sons de la nature, par exemple en nous promenant dans la forêt, des sons électroniques étranges créés spécialement pour cette occasion. Ou même, quand nous n'avions pas d'autres sons sous la main, on a écouté le bruit d'un aspirateur, le bruit d'une mobilette, enfin ce qui se présentait. Donc l'enjeu était de décrire ces expériences le plus finement possible grâce à des entretiens microphénoménologiques. Et après avoir passé du temps à essayer de décrire les caractéristiques des sons que nous écoutions, c'est-à-dire le quoi de ces expériences, on s'est rendu compte que la manière dont on écoutait le son, le comment on écoutait le son, qu'on a appelé la disposition attentionnelle, avait un impact important sur le paysage de notre expérience, sur la manière dont était vécu l'espace. Et nous avons identifié 3 dispositions attentionnelles principales que je voudrais vous faire, que vous connaissez très bien, mais que je voudrais vous faire expérimenter, là, maintenant. Alors, la première, c'est... elle répond à la question « Quel est ce son ?» Lorsqu'un son se produit, notre réaction immédiate, en effet, consiste à essayer de reconnaître l'objet qui est à l'origine du son, donc, très souvent. Donc, vous allez entendre un son, et je vous suggère de l'écouter de cette manière, en vous demandant quel est ce son. Il s'agit de s'intéresser à la source du son, d'essayer de le reconnaître, d'identifier le son. Donc, Sébastien, si tu peux lancer le son. Donc l'idée, c'était d'essayer de l'écouter en identifiant la source du son. Donc c'est un mode attentionnel particulier. Après, il y a d'autres modes attentionnels auditifs possibles. Donc lorsqu'un son se produit, un autre mode d'écoute consiste à s'intéresser aux qualités auditives du son en tant que tel, sans plus s'intéresser à la source du son. Par exemple, quel est son volume, quel est son timbre, quel est son rythme? Quelle est sa persistance? Il s'agit de s'intéresser au son en tant que son. À quoi il ressemble, ce son? Donc, vous allez de nouveau entendre le son et je vous suggère de l'écouter comme ça. Sébastien, tu peux éviter de lancer le deuxième son? Non, mais je veux dire le son. Ouais. Oui, vas-y. Voilà. Et donc on a déjà deux modes. Donc quel est ce son? Donc s'intéresse à l'objet source du son, l'objet qui produit le son. Le deuxième, c'est à quoi ressemble ce son? On s'intéresse au son en tant que son. Et puis le troisième, alors c'est que me fait ce son? On va l'appeler le son ressenti. C'est-à-dire, attends 2 secondes, lorsqu'un son se produit, au lieu d'aller à la recherche du son, de tendre l'oreille vers lui, je peux aussi laisser le son venir à moi, me laisser toucher par le son. Un peu comme si je respirais un parfum. Quand je respire un parfum, je ne vais pas comme ça me tendre vers le parfum. Je me rends réceptif au parfum. Réceptive. La question, donc, c'est, n'est plus quel est ce son, ni à quoi ressemble ce son, mais que me fait ce son? Et je vous suggère d'écouter maintenant le son de cette manière. Ok, alors, pour résumer, grâce à des entretiens, le petit projet de recherche dont je vous ai parlé nous a permis d'identifier 3 modes d'écoute, dont selon que l'attention porte sur la source du son en tant que son ou le son ressenti. Mais ces entretiens ont également mis en évidence le fait que ces 3 modes d'écoute ont un impact sur la manière dont nous vivons l'espace. Ils changent la structure de notre espace vécu, et notamment la solidité de la frontière entre intérieur et extérieur et entre modalités sensorielles. Alors c'est ça que je voudrais qu'on essaie d'explorer par de petits entretiens en s'intéressant plus particulièrement au troisième mode d'écoute, le son ressenti. Donc pour ça, je vais vous proposer de vous répartir quand j'aurai fini mes explications. Donc en sous-groupe de 3 personnes pour mener des entretiens, donc soit en live, enfin en personne, soit par Zoom, où on va créer deux petits salons. Et dans chaque sous-groupe, une personne jouera le rôle d'intervieweur, une autre le rôle d'interviewé, et une autre le rôle d'observateur et de preneur de notes. Alors, je vais de nouveau vous proposer d'écouter le son. Un autre son en fait, mais en mode ressenti. Donc la personne interviewée, et ça je le ferai pas tout de suite Sébastien, 2 secondes. La personne interviewée donc, elle aura pour mission d'essayer de décrire son expérience d'écoute le plus précisément possible. D'écrire son expérience du son ressenti en fait, avec l'aide de l'intervieweur. Et l'intervieweur, donc, il aura pour mission d'aider la personne interviewée dans cette description. Et comme je suppose que peu d'entre vous, en tout cas pas tous, vous sont formés à l'entretien micro-phénoménologique ou à l'entretien d'explicitation, j'ai préparé une liste de quelques questions. Alors, je ne sais pas si elle vous a été déjà distribuée.
Non.
Non.
Non, non.
C'est possible de distribuer la petite liste? Donc vous avez vous voyez les quelques questions. Alors vous verrez, il y a un premier groupe de questions qui porte sur le quoi, c'est-à-dire sur le ressenti du son. Par exemple, tout en écoutant ce son, as-tu ressenti quelque chose? As-tu éprouvé quelque chose? Comment était ce ressenti? Était-il localisé quelque part? Avait-il un volume, une forme, une couleur, une texture, etc. Ça c'est le quoi de l'expérience, c'est le ressenti du son. Et puis juste après, il y a des questions qui portent sur le comment. Lorsque tu as écouté ce son en te laissant toucher par lui, comment écoutais-tu? Qu'est-ce qui en toi écoutait? Quelle part de toi-même écoutait? Etc. Vous voyez, ça c'est le comment, c'est tout à fait différent. Alors, ces questions, c'est pas Si vous voulez, il ne s'agit pas d'un questionnaire. Il ne s'agit pas de poser toutes les questions dans l'ordre, mais juste de laisser la personne décrire son expérience et puis de vous inspirer de ces questions au moment voulu, au cas où vous seriez à court de questions. Et la clé, hein, d'un entretien microphénoménologique ou d'explicitation, c'est vraiment, tout au début de l'entretien, amener la personne à retrouver l'expérience. Si tu veux bien, je te propose de laisser revenir le moment où tu as écouté le son en mode ressenti. Parce que forcément, c'est passé, l'expérience, elle est passée. Donc, je te propose de retrouver le moment où tu as écouté le son. Le moment où tu t'es laissé toucher par le son. Donc, laisser la personne prendre le temps de retrouver ce moment qui a lieu quelques secondes auparavant, puisque là, on va de nouveau écouter un son. Hein? Et c'est sur cette expérience-là que porte l'entretien. Ce petit moment d'écoute d'un son qui va avoir lieu dans quelques secondes. Et donc, après l'avoir écouté, je vous propose de vous répartir en groupe de trois, donc un intervieweur, un interviewé et un observateur preneur de notes. Et alors, maintenant, le temps est un peu réduit par rapport à ce que j'avais prévu, mais je dirais que ce petit travail, ce petit atelier peut durer une demi-heure. Donc, entretien plus un entretien je dirais, d'un quart d'heure, 20 minutes, suivi d'une dizaine de minutes de discussion où vous échangez donc sur la manière dont s'est déroulé l'entretien, sur ce que vous avez découvert, donc en termes de quoi, de son ressenti, et du comment j'ai écouté ce son en mode ressenti. Donc, est-ce que vous avez Donc, quand je dis 20 minutes d'entretien, il se peut qu'au bout de 10 minutes, bon voilà, vous soyez un peu à court parce que vous n'êtes pas tous des experts d'explicitation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez échanger les rôles, par exemple. Hein, l'intervieweur devient interviewé ou le preneur de notes devient intervieweur. Enfin, voilà. Disons que vous avez 20 minutes pour explorer l'expérience, puis ensuite 10 minutes pour un peu rassembler vos idées et en discuter. Et ensuite, on se retrouvera tous ensemble pour un débriefing, je dirais, en grand groupe. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'organisation de cet exercice, sur ce que je vous propose, en fait? Ou est-ce que c'est clair?
J'ai l'impression que c'est très clair pour tout le monde. Ouais, je pense qu'on peut démarrer. Enfin, donc on va écouter le son en question maintenant, c'est ça?
Oui, alors maintenant. Voilà, c'est tout.
L'atelier, pendant qu'il cause, je vais enregistrer les murmures.
Le premier moment, c'est que ça m'a immédiatement.
Je ne sais pas sous la pluie, mais j'étais enroupée dans une espèce de.
D'abord, une curiosité de ce qui va arriver. Donc, il y a les premiers sons.
En fait, le son venait à moi depuis une fenêtre ouverte un peu.
Sur les questions de réverbération, notamment dans le bruit de fond, on sentait qu'il y avait beaucoup de voix différentes, mais pas énormément de réverbération. Donc comme si les voix partaient dans un espace ouvert.
Et ça m'a. Très vite, j'ai entendu des moineaux. Donc...
Mais qui revenait toutes les 1-2 secondes.
Ladies and gentlemen, the time is flowing. Nous allons peut-être nous reconcentrer en grand groupe pour partager tous ces échanges particuliers.
Je pense que ce serait intéressant d'échanger un peu autour des entretiens que vous avez menés, des expériences que vous avez vécues de ce son ressenti. Et bon, je pense qu'il y a deux questions auxquelles on peut essayer de répondre. Qu'est-ce que vous avez identifié comme caractéristique du son ressenti? Et puis, ce que vous avez identifié comme caractéristique de la disposition qui permet de se laisser toucher par le son. Hein, donc, il y a ces deux aspects. Et puis, bien sûr, toute autre question, remarque que vous auriez, qui aurait émergé donc, de ces expériences et de ces entretiens. Voilà. Donc, est-ce que vous avez remarqué des choses que vous pourriez partager?
Alors, comme il y avait toujours un observateur ou une observatrice, peut-être que dans les nombreux groupes qu'on était, qui ne travaillaient pas non plus et n'échangeaient pas non plus dans des conditions idéales, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager à propos des questions que Claire a posées?
Ou d'autres. C'est vraiment ouvert.
Alors, moi, comme observateur, écouteur de l'entretien entre Laïs et Yves, juste à quel point, juste un retour très général, à quel point, d'une manière, un moment assez court, assez simple, qui est une écoute de 20 secondes, d'un son, comment elle se déplie en fait. Elle se déplie, elle prend des dimensions complètement... ouais, c'est comme on est avec Doctor Who et son... ouais, non, vous ne connaissez pas cette référence culturelle, mais c'est... mais c'est... Mais à quel point ça ouvre, en fait, qu'il a pas... que les limites de l'expérience sont beaucoup plus grandes, en fait, que juste... qu'on pourrait, à premier temps, deviner. Et deuxième retour, c'est la question... juste en termes de... ces questions du quoi et du comment. Alors, dans l'entretien, ça a paru comme avec le premier son de la pluie, en fait, c'était vécu plutôt comme un sort de bruit blanc, comme ça, ouais, white noise, un sort de frémissement, et que c'est avec le tonnerre et l'oiseau qui est venu que ce sort de frémissement de fond s'est défini, en fait, comme la pluie, que c'est montré. Comme, alors, il avait juste cette sorte de temporalité ou ouais, de temporalité de manifestation en fait, de la sensation à la source de ces sons. Alors juste avec ces petits aperçus, c'est qu'en fait, ouais, ça ouvre de la temporalité en fait de la réception et comment on passe de sens à faire sens. Il y a une...
Est-ce que alors dans les autres groupes, il y a des expériences qui concordent ou d'autres types de vécu?
Juste en tant que... J'étais aussi observatrice et je crois que la position m'a... Enfin, je ne l'ai pas problématisée avant de l'épouser. Toujours pareil. Pardon, ça m'est venu. Ça venait du cœur, exactement. mais cette position-là m'a gênée. C'est-à-dire que et la question que j'avais en retour pour vous qui êtes expert en entretien d'explicitation, donc j'ai cru comprendre que cette position d'observateur n'existait pas. Et je me demandais si... parce que ce qui m'a gênée, c'est qu'en fait, on partait d'une expérience partagée. C'est-à-dire, Marcus, toi, tu as écouté le même son. Théo a écouté le même son. Et j'ai écouté le même son. Et donc, plein de fois, j'ai voulu intervenir. Ça m'a fait penser à des choses aussi. Je me demande là maintenant, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais à quel point tes questions étaient aussi orientées par ce que toi, t'avais entendu, ce que toi, t'avais ressenti, etc. Et donc, je me demandais si mais c'est vraiment une question de non-initié. Si les entretiens d'explicitation ont systématiquement lieu quand il y a expérience partagée ou quand c'est des expériences au contraire qui ne sont pas partagées, c'est-à-dire faire parler quelqu'un sur quelque chose qu'il a vécu mais que je n'ai pas vécu, ou les deux, et du coup les limites.
Oui, alors là c'est une question méthodologique. Enfin, les deux sont possibles, mais dans la grande majorité des cas, dans les entretiens de recherche que nous faisons, qui sont faits hein, dans l'utilisation de l'entretien pour la recherche, l'expérience n'est pas partagée. Là, c'est parce que c'est un petit atelier d'expérimentation. Mais en général, l'expérience n'est pas partagée, ce qui n'empêche pas à l'intervieweur de devoir être très attentif au fait de ne pas induire les réponses, de ne pas même très subtilement induire le contenu des réponses par les mots qu'il utilise, les questions qu'il pose. Et voilà. Et normalement, c'est pas du tout... c'est assez habituel, par contre, dans les formations, d'avoir un observateur qui donne du feedback à l'intervieweur et à l'interviewé. Mais lui doit être resté complètement neutre pendant l'entretien, complètement silencieux, hein, normalement. J'ai oublié de le dire peut-être. Il doit se contenter d'observer et voilà, et de noter en silence.
Moi, j'ai été interviewé, mais je me demandais dans quelle mesure on peut rester neutre même quand on est silencieux.
Oui, là, vous êtes peut-être de tendance psychanalytique. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. J'allais le rajouter, il suffit d'un tout petit geste ou d'un petit borborygme ou d'un regard pour influencer. C'est vrai. Donc, voilà, dans ma technique d'entretien, consiste à être très, très attentif à tout ça. À tout ce qui est non-verbal, effectivement, aussi.
Est-ce que l'idée est d'essayer d'éliminer, d'épurer cette induction ? Parce que ça m'a paru, en observant, que l'expérience en étant racontée comme ça, elle devient une sorte d'expérience, elle est construite, en fait, dans ce dialogue, et que c'est pas ce que l'intervieweur fait, c'est pas d'essayer de rester complètement neutre, mais de co-construire. Ça veut pas dire que ça peut pas, ouais, il y a une différence de le faire d'une manière inconsciente et d'une manière consciente, ou une manière située, et qu'est-ce qu'on fait avec le récit à la fin aussi, comment on le raconte,
les questions sont très pertinentes, vos questions. Après, c'est pas ici une formation à l'entretien, c'était juste un essai de vous faire mener un entretien sans aucune formation.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai que ça doit, j'imagine que ça pose plein de questions, mais c'est difficile pour moi d'y répondre comme ça très, très vite. L'idée quand même, c'est d'être pour l'intervieweur le moins inducteur possible. Okay. Et on parle de questions vides de contenu. Par exemple, quand tu as écouté ce son, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? C'est quand même très, très neutre. Ou, par exemple, si la personne dit j'ai ouvert mon attention, quand tu as ouvert ton attention, qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait pour ouvrir ton attention ? Vous voyez, on introduit absolument. L'idée, c'est de ne pas introduire quelque chose de nouveau qui n'était pas dans les mots de l'intervieweur, par des questions comme ça qui sont très, très neutres. Ok, j'ai ressenti. Une douleur, quand tu as ressenti cette douleur, qu'est-ce que tu as ressenti? Allez, alors ça, c'est vraiment la base de la formation d'entretien. Apprendre à poser des questions hyper simples. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout, ce n'est pas un entretien journalistique, hein, où on va élaborer, poser des questions compliquées. C'est des questions hyper simples et c'est ça, c'est là où réside l'expertise de l'intervieweur, c'est qu'on n'est pas du tout habitué à poser des questions simples, à rebondir de manière très, très simple et épurée sur les mots de l'autre. C'est ça qui est en fait étonnant, au point quand on voit un entretien qui est bien mené, on se dit mais c'est super facile en fait de mener un entretien, alors qu'en fait c'est pas si facile justement. Et puis voilà, enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre, que on a un certain nombre de critères pour qui permettent d'évaluer je dirais le fait que la personne vraiment s'est référée à son expérience pour décrire, pour mettre des mots, et non pas à des théorisations, des préconceptions. Donc c'est ça l'idée, c'est ce qu'on essaye de faire. Et il y a un certain nombre de critères, même objectifs, dans la manière dont elle a de parler, de la position de son regard aussi. Un certain nombre de, que là je ne peux pas énumérer, et qui permettent de vérifier qu'elle est bien en évocation de l'expérience. Ça, c'est vraiment le pilier de l'entretien, amener la personne à évoquer l'expérience, c'est-à-dire à la retrouver au point qu'elle vous oublie. Elle oublie l'intervieweur, elle est en train vraiment de se replonger dans son expérience avec toutes ses dimensions sensorielles. Et elle vous oublie, d'ailleurs elle ne regarde plus l'intervieweur, c'est un des critères, elle ne vous regarde plus. Elle regarde autour d'elle ce qui est dans son espace, dans l'espace de son expérience. C'est l'état d'évocation qui est... Et alors, bien sûr, cette expérience-là, ce n'est pas l'expérience initiale, c'est une autre. Donc quand vous dites « c'est reconstruit », bah, oui et non, c'est-à-dire que... C'est pas la même expérience. Oui, l'évocation, on la construit, c'est sûr, et c'est pas, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Hein. C'est plus la même expérience, mais c'est une expérience évoquée, c'est tout à fait autre chose qu'une expérience construite à partir de préconceptions, etc. C'est ça qu'on essaie d'éviter. Et on voit vraiment, même dans la manière de le comportement de l'interviewé, la différence, c'est vraiment très très net, quoi.
Et ce que je pourrais dire par rapport aux conditions dans lesquelles notre petit exercice s'est passé, on était beaucoup trop nombreux, il n'y avait pas de silence, d'espace un peu plus intime pour que cette évocation puisse se passer. Je n'exclus pas que ce moment d'évocation où l'expérience vécue devient plus présente que le moment présent, je n'exclus pas qu'elle se soit passée pour tel ou tel d'entre vous. Mais je dirais simplement que les conditions ne l'autorisent pas ou pas facilement ici. Et voilà, le but était aussi simplement de se mettre un peu en exercice.
C'était donner un goût un petit peu de l'entretien et puis du son ressenti, quoi, de cette expérience de son ressenti et de ce qu'on fait pour y s'y rendre attentif. Donc, est-ce que par exemple, moi j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous ont identifié quelque chose qu'ils ont fait pour se rendre attentif, pour se laisser toucher par le son, ou arrêter de faire. Enfin.
Merci de nous avoir fait cet exercice. Moi, je voulais, au nom de nous trois, peut-être faire une petite restitution. Et j'ai trouvé que la question de la neutralité était très intéressante, c'est-à-dire que avec les conditions, c'était tout sauf neutre. C'est-à-dire, en fait, c'était une expérience à trois, avec ces trois rôles, et que tout était construit dans les rires, dans les clins d'œil, et que la neutralité, justement l'impossible neutralité de cette expérience, nous a amusés, je trouve, et qu'on était tous dans un protocole duquel on pouvait tirer des données. Enfin, c'était une expérience unique aux multitudes interactions, j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que vous pourriez donner un exemple?
Ben, le rire partagé et la façon dont il nous liait sur le récit, la restitution d'une expérience.
D'accord. Donc, ce n'était pas un entretien microphénoménologique ou d'explicitation, c'était, c'était autre chose ce que vous avez vécu.
Voilà. Mais c'est vrai que c'était difficile parce qu'on a partagé l'expérience en fait d'écoute. Donc il y avait quelque chose où on se mettait chacun dans un rôle qui donc on jouait à ça, mais il y avait quelque chose autour de ça, même si on était évidemment dans l'exercice, dans l'expérimentation de ça. Il y avait un biais d'entrée parce qu'on a tous entendu ça. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir si on pourrait réécouter le son, maintenant qu'on en a parlé pendant ensemble et qu'on a échangé pendant 20-30 minutes.
C'est une bonne idée. Une bonne idée. Sébastien, tu peux le relancer ?
Juste avant ça et avant la réécoute, ça me fait penser au fait, moi j'avais une question qui était, est-ce qu'on peut dans l'entretien échapper à des moments de métadiscours ? C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de mise en condition. Bon, il y a eu beaucoup de questions, etc. Donc, on était en situation d'attente du son qui venait, qu'on voulait écouter, etc. Donc, ce moment-là de l'installation de l'expérience. Après, c'est un fragment qui était très bref. Donc, est-ce qu'on a eu vraiment le temps de s'installer dedans, etc. Donc, je pense dans la discussion qu'on a eue, dans le groupe dans lequel on était, il y avait aussi des éléments qui allaient plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire dans quelles conditions on est amené à écouter et à restituer quelque chose. Donc, une sorte de métadiscours sur les conditions même de l'expérience dans laquelle on était.
Ça ne m'étonne pas. Hein. Parce que... c'est spécial, là, ce que j'essaie de susciter, c'est spécial. Normalement, l'expérience est plus nette, plus, je dirais, une des conditions d'un bon entretien, c'est que le début et la fin de l'expérience soient clairement définis. Alors là, justement, c'est des peut-être pas très très clair, il y avait un avant, un flottement, et puis le moment du son qui était bref, peut-être trop bref, mais en même temps, comme notre participant l'a dit, même ce moment-là, c'est très bref, c'était possible de le déplier énormément, donc quand le moment est long, plus le moment est long, plus c'est difficile de déplier, parce que ça devient infini, c'est nous ce qu'on appelle, un protocole expérientiel. Il faut mettre en place un protocole expérientiel qui fait que l'expérience est clairement définie et que tout ce métadiscours à propos des conditions de l'expérience, du coup, devient plus rare, en fait, généralement. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui, merci. Oui. On est tous curieux de réécouter le son, je crois. On peut peut-être s'arrêter sur ce son-là pour la matinée.